Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. En 2014, nous avions rencontré Manuel Cordouan pour évoquer Les Amants d'Alger, un livre paru en 2011, et nous avions également présenté La Carte maîtresse qui est parue en 2014. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Manuel Cordouan pour sa dernière pièce de théâtre, Un père de trop, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Je sais également par ailleurs qu'il a écrit une comédie musicale, Mélodie du Bleu, en collaboration avec le Conservatoire de Chartres, qui fut joué l'hiver dernier. Il renouvellera sa collaboration avec le Conservatoire de musique de Chartres, avec le Quatuor oublié, à propos justement d'un quatuor de Mozart. Manuel Cordouan, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, Un père de trop est votre seconde pièce de théâtre après Noces tardives. Et en 2002, vous avez également publié Si tu t'imagines. En 2009, Le vertige de Clémence. Vous avez également écrit des essais. Je pense à Regard européen sur l'histoire philosophique allemande en collaboration avec Pierre Quillet. Et L'Europe de la sécurité aux éditions des chaînes Brouwer. Et je sais que vous êtes également très impliqué dans l'Eure-et-Loir. Vous êtes passé du roman au théâtre. Comment avez-vous fait ce choix ?
Eh bien, vous savez, d'abord, tout auteur qui a quelques prétentions littéraires de tout temps veut faire ses essais au théâtre. Ça se vérifiait sous l'Antiquité, où le théâtre était l'art littéraire par excellence. Au XVIIe, XVIIIe siècle, le roman paraissait toujours un genre un petit peu subalterne.
Oui.
Et donc, je pourrais vous faire d'abord cette première réponse générale. Donc, tout auteur veut tâter du théâtre à un moment ou à un autre. Ensuite, l'idée vient de loin parce que lorsque j'ai publié Le Vertige de Clémence en 2009, mon éditeur de l'époque m'avait fait remarquer que j'avais une certaine facilité pour les dialogues.
Oui.
Donc l'idée a cheminé et ça m'a donné envie d'écrire une pièce de théâtre. Et puis, il se trouve qu'après l'écriture de La Carte maîtresse, que vous avez évoquée,
oui,
je suis allé voir un ami, lui-même auteur de théâtre. À l'époque, je venais de terminer La Carte maîtresse, ça m'avait assez fatigué. Et je lui ai dit, écoute, j'en ai un peu assez d'écrire des romans, je voudrais un petit peu changer. Il me dit, mais écris donc une pièce de théâtre. Je n'ose pas vous dire ce qu'il m'a dit après, parce que ce ne serait pas très convenable à l'antenne.
Ah bon ?
Bon, mais enfin, c'est cité quand même dans la pièce, donc il m'a dit, voilà, tu te feras des couilles en or. Je les attends toujours, mais n'empêche que je me suis lancé dans la première pièce, donc Noces tardives. Bien sûr, comme toujours, surestimant mes forces, je pensais que c'était simple, beaucoup plus simple qu'un roman. En vérité, pas du tout. Noces tardives a une trentaine de versions. Le théâtre pose d'autres difficultés que le roman, mais il pose des difficultés. Quand on le découvre comme auteur, non pas comme lecteur, j'en avais lu pas mal du théâtre, mais quand on se met à écrire du théâtre, on découvre progressivement les règles du théâtre. Moi, je suis un peu un artisan de la chose littéraire, vous savez, je ne suis pas vraiment un professionnel. À la fin, on finit par apprendre un petit peu. Mais comment dirais-je, ça m'a donné l'occasion effectivement de découvrir comment construire une pièce qui est quelque chose de véritablement, fondamentalement différent du roman. Parce que là, véritablement, ce sont les dialogues qui doivent mener l'action, il n'y a rien d'autre.
Mais c'est ça.
Il n'y a pas de narrateur, c'est véritablement les personnages qui doivent faire progresser l'action. Et donc, ça m'a beaucoup éclairé. Et effectivement, Noces tardives a fini par être joué, la première pièce, donc à Chartres l'an dernier, à 5 ou 6 reprises, enfin 4
oui.
ou 5 au moins.
Au
Grand Théâtre, il y a une lecture.
Il y a une lecture
par une troupe de professionnels. Et puis ensuite, ça a été joué à l'apostrophe 2 fois. Ensuite, ça a été joué de nouveau près de Chartres, à Nogent-le-Fay. Ça a été joué à Gomerville.
Oui.
Donc ça a été joué à la CCI aussi. Non, à la CCI, c'est Mélodie du Bleu. Donc ça a été joué un certain nombre de fois.
Et alors, quand on voit la pièce qu'on a écrite, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez dans la tête en l'écrivant ?
Ben, quand on commence à écrire une pièce de théâtre et qu'on n'en a jamais écrit avant, on ne visualise pas assez, on se met à visualiser davantage au fur et à mesure qu'on pratique l'écriture théâtrale, justement. Ça, c'est un acquis de la pratique. Mais il est sûr que l'avoir représenté sur une scène est une grande satisfaction parce que, et là, c'est supérieur au roman, parce que le roman, quand vous publiez un roman, les gens peuvent vous en dire du bien, mais finalement, d'une certaine façon, qu'est-ce qui vous prouve qu'ils l'ont lu ou alors qu'ils l'ont vraiment aimé ? Tandis que, véritablement, ce qui est très intéressant dans le théâtre...
Mais quand on écrit, c'est toujours pour être lu.
Absolument. Mais comment, enfin, du moins, c'est comme ça que ça doit tourner normalement,
Bien
parce qu'on
sûr.
fait tous des confidences d'adolescents avant de un journal intime, en principe, avant, qui n'est pas destiné à la publication. J'ai pas échappé à la règle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vous avez un juge immédiat qui ne triche pas, c'est le public. Vous voyez bien si le public apprécie ou n'apprécie pas. Vous voyez? Donc
Oui,
c'est un
mais
retour
je
plus
veux dire,
direct.
est-ce que la vision que vous avez eue de la pièce jouée au théâtre, c'était la vision que vous aviez de votre propre pièce quand vous l'avez écrite?
Pas forcément. Si vous voulez, j'aurais
C'était une
peut-être,
autre vision
voilà,
alors.
comme, je veux dire, je remercie beaucoup les acteurs qui sont
L'acteur,
des acteurs bénévoles qui ont joué la pièce, je ne vais pas citer de nom, mais peut-être que j'aurais moi-même interprété, vu un peu différemment, certains des personnages. Ça, certainement. Mais malgré tout, c'est tout à fait fascinant, intéressant de voir effectivement son œuvre réalisée sur scène. C'est quelque chose de très prenant, oui.
Oui, sûrement. Quand vous avez assisté aux répétitions, j'imagine que
Oui.
vous avez assisté aux répétitions,
Oui.
eh bien, est-ce que vous avez donné votre point de vue justement sur le fait que vous n'étiez pas forcément d'accord avec la façon dont jouaient certains acteurs?
Eh bien, ça m'a donné l'idée que si je refais, donc Noce tardive a été répété, joué, etc. Un père de trop, pour l'instant, a été publié, mais n'a pas été ni répété ni joué.
Oui.
Ça m'a donné l'idée que si cet hiver, un père de trop est répété et joué, je serai moi-même le metteur en scène. Oui,
Voilà. Alors,
absolument.
c'était exactement ma question, parce que
Absolument.
j'imagine que on ne doit pas aimer que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place pour mettre
Ben,
la pièce.
c'est-à-dire, c'est toujours pareil. Il faut, moi, je trouve qu'il faut faire l'expérience.
Oui.
Il faut faire l'expérience. Moi, je suis très bien entendu avec Madame l'archevêque, hein, qui a fait
C'était
la.
elle qui.
Oui, Marie-Annick l'archevêque, qui a fait la. Mais si vous voulez, c'est vrai que je préférerais pour la prochaine être moi-même mon metteur en scène.
Très bien.
Voilà.
Alors, donc, vous êtes passé du roman au théâtre et nous retrouvons, je pense, à travers cette pièce de théâtre, les thèmes qui vous sont chers. Alors, tout d'abord, la femme. La femme, dans cette pièce de théâtre, elle est omniprésente et elle est à la fois femme, épouse et mère. Pourquoi trouve-t-on toujours cette héroïne? Et en plus, elle s'appelle Ève.
Oui, parce que c'est un prénom emblématique, on va dire.
Oui.
C'est la femme par excellence, quoi. C'est un prototype.
C'est un prototype. Alors, est-ce que vraiment, pour vous, c'est la femme, c'est ce qui importe le plus dans la vie?
Ah, bah écoutez, d'une certaine façon, oui, si vous voulez. Vous savez, au théâtre, vous représentez des hommes ou des femmes. Je n'ai pas envie de représenter des animaux, ça c'est fait, hein, puisque Ionesco, après tout, avec son
Oui.
rhinocéros.
Oui.
Mais moi, j'ai plutôt envie de représenter des êtres humains.
Oui.
Et c'est vrai que je trouve que c'est très.
Non, parce que
Ça
qu'elle s'appelle Ève, en plus, c'est très
Mais
symbolique quand
c'est
même, hein.
mais oui. Mais souvenez-vous, dans Les Amants d'Alger, l'héroïne s'appelait Myriam. Là aussi, c'est pas un
Oui,
prénom. Myriam, c'est Marie, hein.
nous l'avions
C'est pas un
noté également, je me
prénom.
souviens.
Et donc, j'aime beaucoup la structure théâtrale où, en fait, une femme se retrouve entre deux hommes,
Oui.
triangulaire. Je trouve que ça marche très bien au théâtre pour toute une série de raisons un peu techniques, les oppositions, terme à terme entre les deux hommes, la femme et chacun des hommes, et ainsi de suite. Les deux hommes contre la femme, enfin contre la femme, vis-à-vis de la femme. Et puis, d'ailleurs, c'est la même structure, qu'il y a dans Un père de trop. La seule différence, c'est qu'en plus, il y a le fils qui intervient.
Et ça,
Mais.
le fils, c'est le rôle le plus important.
Dans un père de trop, oui. Dans un père de trop, oui.
Parce que c'est celui certainement à qui vous êtes le plus attaché.
Oui, parce que c'était ce qu'il y avait de nouveau par rapport à Noce tardive, puisque dans cette recherche de paternité, qui est un peu le centre de Noce tardive, dans le fond, l'enfant n'apparaissait, enfin l'adolescent n'apparaissait
Ouais.
qu'à la fin, puisqu'il sonnait à la porte. Et puis donc, un
Et...
père de trop, ça peut se lire séparément de Noce tardive, mais c'est vraiment la suite, c'est-à-dire le moment où l'adolescent rentre dans la pièce. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était sa réaction par rapport à la recherche de paternité de sa mère. Et puis, effectivement, délivrer un certain message sur son vécu à lui, la manière dont il avait vécu les 15 premières années de sa vie privée d'un père, et perdu très vite, et puis sa propre vision d'amour et son rapport avec sa mère.
C'est ça. Alors, revenons à l'histoire. Ève, donc, a invité deux hommes, Adrien et Benoît, deux amis, pour les présenter à son fils. Et vous écrivez, Ève dit, ils sont venus pour toi. Alors, comment expliquez-vous cela?
Ah ben, elle est très brutale dans son et relativement peu maternelle.
Oui.
Elle s'améliore un peu dans Un père de trop à la fin, mais
Oui.
dans Noce tardive, c'est bien pire. C'est-à-dire que finalement, pour elle,
Alors,
c'était.
racontez-nous Noce tardive, parce que nous n'en avons pas parlé.
Ben, écoutez, en gros, Noce tardive, cette femme a eu deux amants successivement, donc Adrien et Benoît. Et elle a eu un fils avec l'un d'entre eux, ou peut-être d'ailleurs, enfin il a une quinzaine d'années, donc on peut resituer les choses quand même à peu près, un autre homme, mais elle n'a pas su qui était le père. Et au début, la question qui l'anime dans Noce tardive, c'est de savoir mais qui est le père pour son fils. Et puis en vérité, comme elle est foncièrement égoïste, ce qui l'intéresse surtout, c'est de retrouver l'amour de sa jeunesse qui l'a le plus marqué. Et là, si vous voulez, où la conclusion n'est pas très, de Noce tardive n'est pas très morale, mais en revanche, elle donne la possibilité d'écrire une pièce de théâtre, sinon ce serait une banalité, c'est que justement, le père n'est pas celui qu'elle a le plus aimé. Et ça, c'est le test ADN qui l'a montré. En d'autres termes, il n'y a pas forcément coïncidence entre la nature et la culture. Voilà, ça,
Oui.
c'est Noce tardive.
Ah oui, d'accord. Alors, justement, vous parliez de test ADN et le fils, Henri, donc, qui a 15 ans, qui apprend que Benoît est son père et ça, on le sait par un test ADN, il est absolument horrifié quand sa mère évoque cette recherche. Est-ce que au XXIe siècle, on peut dire que c'est une pratique courante, parce que on n'a pas cette impression?
Ah, c'est une pratique qui ne demande pas. Enfin, c'est assez. J'ai jamais fait l'expérience moi-même, mais je veux dire, c'est une pratique qui est peut-être pas courante, mais qui est usuelle, hein,
Ah
qui est
oui.
usuelle. La recherche ADN, tout à fait. Mais vous savez, moi qui suis un professionnel de la sécurité, je peux vous dire que les recherches ADN, on les utilise énormément pour les fichiers de police, on les utilise énormément pour la recherche des violeurs, des criminels,
Oui,
parce que
alors ça,
l'ADN, si vous voulez, ne trompe pas.
oui, mais ça, dans cette catégorie, d'accord. Mais quand il s'agit d'un père, j'imagine que pour un enfant, d'ailleurs, il est vraiment très horrifié puisqu'il dit, c'est ce qu'on fait pour les souris.
Oui, mais parce
Ce qui
que.
veut dire que en fait, quand il pense que sa mère fait ça, c'est qu'elle le rabaisse en quelque sorte, que c'est, il a l'impression d'une dignité qui s'en va, non?
Non, d'abord, il est très attaché, il forme une sorte de couple avec sa mère.
Oui.
C'est un peu de l'amour-haine, si vous voulez. Ça, c'est la première
On va le
chose.
voir peut-être plus à la fin,
Mais
d'ailleurs.
surtout, le problème pour lui, c'est qu'il a fait le deuil de l'idée d'un père pour lui. Il a
Oui.
eu le temps en 15 ans. Et
Voilà.
donc, qu'on aille réveiller ça tout d'un coup, ça le met hors de lui.
C'est ça.
Et accessoirement, il est amoureux de sa professeure de bio, alors ça lui rappelle les expériences sur les souris. Parce qu'il faut y a un petit jeu dramatique là-dedans.
Oui. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Manuel Cordouan et nous évoquons Un père de trop, une pièce de théâtre qui est parue aux éditions L'Harmattan. Alors nous avons évoqué cette pièce de théâtre qui sera jouée, je l'imagine, à Chartres.
Bah écoutez, je l'espère, mais vous savez, c'est un gros travail de trouver une troupe amateur parce que je n'ose pas songer à une troupe professionnelle qui se mette au travail. Et comme j'envisage de m'occuper de la mise en scène directement cette année, mon Dieu, si je trouve les acteurs, et pour tout vous avouer, j'ai commencé à faire quelques recherches, mais je me lancerai là-dedans, mais avec la connaissance de la conscience du travail que ça représente, parce que l'an dernier, ça m'a quand même bien occupé et bien distrait aussi quand même de temps en temps.
Voilà, j'imagine qu'avec vos autres occupations, c'est une sorte de dérivatif.
Ah, c'est plus que ça, hein. c'est une évasion. Hein.
Oui, c'est ça, c'est une évasion. Alors, revenons-en à cette pièce de théâtre. Nous avons vu qu'il y avait déjà Ève, la mère, le fils Henri, et puis il y a deux hommes. Et ces deux hommes avec lesquels, eh bien, on se demande qui est le père d'Henri. Alors, nous en étions là. Et je vais lire un passage, ça se trouve page 25. C'est Ève, la mère, la femme, qui dit « Comment supporter de vivre avec toi, Benoît ? L'éternel plaignant des causes perdues, à mi-chemin entre les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. » Alors, j'aimerais bien que vous expliquiez cette phrase pour nos auditeurs.
Bien volontiers. On dirait en vocabulaire contemporain que Benoît se traîne une bonne névrose. Oui. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas été à l'aise avec une mère qui probablement n'a pas parfaitement joué son rôle non plus, mais enfin lui avait un caractère aussi peut-être un peu difficile, un père qui n'était pas trop facile non plus, bref, des parents qui n'étaient pas faciles, et finalement tout ça s'est pas très bien passé. Notre ami Benoît s'en est tiré en cherchant refuge du côté des mots M-O-T-S, mais les mots M-O-T-S l'ont surtout d'abord servi à décrire ces mots M-A-U-X. Voilà l'explication.
Oui. Alors, le futur mari, qui n'est pas le père en fait, eh bien, on se dit qu'il pourrait en être digne. Et pourtant, il y a le fameux ballon de football là, qui montre que lui non plus, il ne serait pas digne d'être père. Parce qu'il a toujours l'enfance, il est toujours un enfant, en quelque sorte.
Oui, mais c'est ça la grande leçon.
Il n'a pas grandi.
Voilà, ni l'un ni l'autre, chacun a son talon d'Achille. Et ce que je voulais montrer par là, c'est que c'est très difficile d'être un bon père. Du reste, vous connaissez l'anecdote de la plaisanterie de Freud qui recevait une patiente et qui lui disait « Je crains de ne pas avoir été une bonne mère ». Ou avec mon mari, nous craignons de ne pas avoir été des bons parents pour le patient que traitait Freud. Et Freud le regarde avec un sourire en lui disant « Mais ne vous en faites pas, on ne réussit jamais à être de bons parents ». Bon, ça c'est un petit peu pour rire, mais très sérieusement, oui, je pense que c'est extrêmement difficile d'être un bon père. Je dirais même c'est très difficile aussi d'être un bon amant et c'est très difficile d'être une bonne maîtresse ou une bonne mère de famille. Tout ça est difficile. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi un peu.
Oui. Alors justement, est-ce que vous pensez que être père au 21e siècle, alors, c'est encore plus de responsabilité qu'auparavant, ou bien...
Ah mais je crois que, si vous voulez, c'est plus difficile parce que les pères, il se trouve que je suis en train de lire un roman de Victor Marguerite qui a été publié en 1922, qui s'appelle La Garçonne, qui a fait scandale à l'époque. Bon, mais c'est très intéressant parce que quand on voit de quelle manière les hommes quand même étaient protégés dans leur rôle de mari et de père par le code Napoléon... d'une manière d'ailleurs totalement scandaleuse, et combien, par exemple, la société leur pardonnait toutes leurs infidélités, tandis que dès qu'il s'agissait d'une femme, a fortiori d'une fille, c'était terrible. Il est certain que les hommes du 21e siècle, et tant mieux pour eux, d'ailleurs, franchement, se trouvent beaucoup plus exposés, si vous voulez. Ils ne peuvent pas s'installer comme ça dans leur rôle de père, tout en ayant des maîtresses, des ceci, des cela. Donc je pense que c'est plus compliqué. Et parallèlement... un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, d'une certaine façon, oui, on peut employer le terme, la libération de la femme, ça ne me choque pas d'employer le mot, a rendu aussi très certainement, moi ce que je pense, c'est que tout ça a rendu en vérité le rôle du père comme de la mère plus difficile. Voilà. Alors, peut-être plus valorisant, mais en tout cas plus difficile. Parce que si vous regardez du côté de la mer, vous vous rendez compte que la mer de l'époque du roman de Victor Marguerite, où finalement elle est dans son rôle institutionnel, elle est peut-être opprimée un peu dans son rôle, mais elle s'y complaît d'une certaine façon. Elle s'y complaît, elle s'estime protégée à tort ou à raison par son époux. Tandis que maintenant, si vous considérez, on a souvent considéré la pilule et les moyens de contraception étaient un moyen de libérer la femme, certes en un sens, mais en un autre sens, ça l'expose aussi beaucoup, si vous voulez, parce que peut-être qu'elle met plus son cœur dans ses aventures, dans ses premières aventures amoureuses en moyenne que les hommes. Donc vous voyez, et ensuite, lorsque les époux se choisissent, c'est d'autant plus difficile, d'abord pour une raison toute bête, c'est que la vie maritale dure de plus en plus longtemps. Oui. N'oublions pas que dans le temps, les couples vivaient ensemble 10-15 ans maximum. Maintenant, c'est 35-40 ans. Mm. Mais si, les femmes épousaient des barbons. Elles épousaient des hommes de 35 ans. Elles avaient 20 ans. Les hommes mouraient à 50 ans. C'était des vieillards au XVIIe siècle.
Ah oui, au XVIIe siècle.
Le XVIIe siècle, c'est il n'y a pas longtemps. C'est il y a 3 siècles. Voyons,
oui,
il faut... Non, mais regardons les choses en profondeur. Regardons les choses en profondeur. Tandis que là, vous vous mariez à 25, 30 ans, 35 ans. Vous en prenez jusqu'à 70 ans. C'est assez long, et puis surtout, toute la libération des mœurs fait que, évidemment, les tentations sont plus fortes. On a moins peur du qu'en dira-t-on, en tout cas du côté des femmes, je vous dis, en raison des moyens contraceptifs. Oui, les hommes ont peut-être moins changé leur comportement, finalement, fondamentalement, que les femmes. Je ne sais pas, enfin, on pourra en discuter.
Donc vous pensez qu'en fait, le rôle de la femme est beaucoup plus important parce que tout repose sur elle. Vous évoquiez la pilule, maintenant c'est la femme qui gère tout.
Oh, je voudrais pas perdre la moitié de mes lecteurs si c'est des hommes, si vous voulez. Mais donc, je dirais que d'une certaine façon, je pense qu'elle a un rôle plus important. Elle avait avant un rôle matriarcal qui était extrêmement important, qu'il faut pas négliger. Mais je pense qu'effectivement, à la fois plus important et comme toujours plus difficile.
Oui.
Il faut pas dire seulement plus important. Parce que si c'est plus important, c'est aussi plus difficile. Ça aussi, professionnellement, je suis bien placé pour le savoir. C'est toujours comme ça, les choses. Mais je pense, en effet, que c'est à la fois plus important et plus difficile.
Oui, oui. Alors, dans la scène 4, Adrien veut épouser Ève, car, dit-il, ce serait signe de réussite. Qu'entendez-vous par là?
Parce que c'est un homme qui, effectivement, avait une enfance difficile, une mère qui était très maltraitée par son propre père. Et il a, lui, trouvé ses compensations, non pas dans les écrits, mais dans les affaires. Il a gagné beaucoup d'argent, il a séduit beaucoup de femmes, il a couché avec beaucoup de femmes, pour parler français. Mais voilà, il a jamais, comme il le dit dans la première pièce, Nostardive, les femmes, même pour mon fric, ou quelque chose comme ça, avec un brin de cynisme d'ailleurs.
Oui, mais ça, c'est très, très pessimiste.
Oui, mais là, justement, il veut épouser Ève, parce qu'il a l'illusion d'épouser quelqu'un qui l'aime vraiment. Et ça, oui. C'est pas pessimiste.
Non, mais si vous voulez, quand il dit « ça va être signe de réussite », est-ce que c'est une réussite Qu'est-ce que c'est que la réussite, là ?
Au théâtre, il y a une chose fondamentale. Hein.
Oui.
Chaque acteur a son langage. Lui, c'est sa façon de s'exprimer. Si c'était Benoît, il ne dirait pas « ce serait une réussite ». Il dirait « ce serait un grand bonheur » ou quelque chose comme ça. Mais lui, pour lui, réussite, ça veut dire bonheur. C'est-à-dire qu'il accéderait au contraire au bonheur. Mais comme il a l'habitude de faire des affaires, de gagner, pour lui, c'est réussite. C'est comme un jeu, si vous
D'accord.
voulez.
Non, mais parce qu'il n'est pas question d'amour, c'est ça que je veux dire.
Ah mais si, mais il est question d'amour. Ce serait pour lui une consécration dans la mesure où, il le dit dans Nostardive, d'abord... Il aurait l'impression, pour la première fois de sa vie, de pouvoir se contenter d'une seule femme. Ça n'a l'air de rien, mais pour lui, c'est un progrès notable.
Oui.
Et donc, il faut avoir un peu les deux perspectives. Pour lui, c'est plutôt une bonne nouvelle. N'oubliez pas aussi, dans tout ça, hein, la part du jeu théâtral, hein,
oui.
des expressions. Il ne faut pas tout prendre
oui.
non plus au pied de la lettre. Hein.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut l'entendre, cette pièce.
Il faut l'entendre.
Il faut l'entendre. Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous dites qu'il y a beaucoup de divorces, mais ce serait parce qu'il y aurait un égoïsme de chacun. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, plus qu'auparavant, puisque vous étiez 17e, il y a effectivement beaucoup de divorces. Donc les gens seraient plus égoïstes.
Mais les divorces sont beaucoup plus... Je ne crois pas qu'ils soient ni plus ni moins égoïstes, mais que plus, je dirais plutôt que leur égoïsme peut se donner beaucoup plus facilement libre cours. C'est ça la grosse différence. C'est-à-dire que maintenant, le divorce est autorisé par la loi. Il ne l'était pas ni au 18e, ni au 17e, ni au 19e siècle.
Oui, mais peut-être que, justement, puisqu'il n'était pas autorisé, les gens, peut-être, faisaient plus d'efforts.
Ils prenaient sans doute plus pour eux, mais je dirais sans doute ils n'en pensaient pas moins. qui n'a pas dans ses souvenirs de grands-parents ou d'arrière-grands-parents, enfin moi j'en ai en tout cas, qui véritablement avait l'air de se supporter, mais de s'adorer comme deux chiens dans un jeu de quilles.
Oui, mais
Mais
ça c'est
effectivement,
très...
à
Oui,
l'époque,
mais vous ne pensez pas que l'amour peut être éternel?
L'amour des hommes, non. Celui de Dieu, peut-être. Mais là, nous parlons des hommes.
C'est quand même
Dans
très
le meilleur...
pessimiste de penser
Mais
ça.
non, dans le meilleur des cas, non, c'est raisonnable. Dans le meilleur des cas, l'amour peut se transformer. Vous savez que les origines grecques de l'amour, il y a trois sens à l'amour, le sens érotique, le sens de la charité, le sens un peu mystique, disons pour simplifier les choses. Il y a l'amour-amitié. L'amour dans un couple peut se transformer. Si vous voulez, la folie de l'excitation de la chair ne dure pas dans un couple 40 ans. C'est quand même assez rare, d'autant plus que le couple vieillit. Mais en revanche, l'amour peut parfaitement se transformer. Mais prétendre qu'une chose est éternelle ici-bas, ça me paraît d'une grande audace, hein. Moi, je ne crois pas ça, non.
Ah bon.
Non.
Alors, à travers cette pièce, on peut voir en fait une famille de notre époque. Et je pense à Henri, le fils, il a un smartphone. Et comme il vit mal son adolescence, en fait, c'est à l'hôpital qu'il se sent le mieux. Est-ce aussi un fait de société que vous montrez par là?
Ben, c'est-à-dire que oui, il y a énormément. Vous savez qu'on n'a jamais autant utilisé d'antidépresseurs, de calmants que maintenant, alors qu'on n'a jamais eu une vie aussi confortable que maintenant. Là aussi, c'est
Oui.
un paradoxe de la modernité. Surtout à l'hôpital, il se sent protégé. Il ne se sent pas assez protégé par sa mère. Vous voyez, c'est ça son problème, au sens psychanalytique. Parce que si vous voulez, dans le couple qu'il forme avec sa mère, forcément, qu'il a formé enfant, c'était un couple déséquilibré.
Oui. Alors, je voudrais lire page 84. C'est justement Henri, le fils, qui parle. J'ai eu d'abord de l'eczéma, à me gratter la peau jusqu'au sang. J'étais bête comme une mouche. Je restais collée, figée, fixée à ma souffrance comme une mouche sur une vitre. Maman semblait ne s'apercevoir de rien. J'ai perdu l'appétit, je suis devenue très colérique. On a commencé à s'engueuler très fort tous les deux. Quand je ne pesais plus que 50 kilos, elle s'est décidée à me faire hospitaliser à l'hôpital Necker. Et elle m'a dit qu'elle avait retrouvé mon père pour me calmer. Mon père? Je sais très bien qu'il est mort. Elle ne me l'a jamais avoué, mais j'ai deviné tout seul. Et cette histoire d'ADN est une invention qu'elle a concoctée avec Adrien et Benoît. Ah, les pourris. Ils se sont mis d'accord tous les trois sur mon dos. Ça, c'est quand même très pessimiste. Et vous parliez de l'amour qui s'est rodé. Eh bien, c'est Henri qui conclut cette pièce en disant: Eh bien, je connais maintenant Henriette. Ce ne sera peut-être pas toujours le top avec elle, mais c'est mieux que de rester tout seul. C'est horrible à 15 ans de dire cela.
Alors, là, si vous voulez, dans le passage que vous avez lu, il y a aussi l'expression, pas simplement du pessimisme, mais de la colère.
Oui, on peut dire
Bon,
cela.
et ensuite, la conclusion est un petit peu pessimiste, mais enfin, je dirais qu'il ne faut pas en faire un drame. Ça montre aussi qu'il a une certaine capacité de distanciation, ce garçon.
Voilà, eh bien je crois que nous allons clore ce débat. Je crois, chers auditeurs, que vous aurez très envie de lire Un père de trop de Manuel Cordouan aux éditions L'Harmattan. Un grand merci à vous, Manuel Cordouan. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci
Merci
à vous.
beaucoup.